France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de Toutes les Cultures. Ce soir, on va parler d'un disque qui a changé la trajectoire d'un groupe et quelque part, la trajectoire du métal lui-même, un album qui a réussi à être à la fois extrême, virtuose, populaire et à devenir un repère, un standard, même pour des gens qui n'écoutent pas de métal au quotidien. Il y a 40 ans, quasiment jour pour jour, Metallica sortait Master of Puppets, 8 titres, une précision chirurgicale, une écriture plus ambitieuse que jamais, des morceaux longs qui n'ont pas besoin de la radio pour devenir des hymnes, un album qui parle de contrôle, de manipulation, d'addiction, de guerre, d'endoctrinement, et puis, il y a l'histoire derrière l'album Cliff Burton, le bassiste figure essentielle, l'âme mélodique du groupe et ce drame qui survient quelques mois plus tard pendant la tournée avec sa disparition. On va aussi se demander ce que ça change, ce que ça laisse et pourquoi cet album continue de hanter l'histoire du rock et même sûrement de la pop. Pour en parler, j'ai deux invités autour de la table. D'abord, Olivier Badin, journaliste spécialisé dans le métal. Comment ça va, Olivier ?
Ça va très bien, très
merci
content d'être
là.
Ici.
Bah, très content que tu sois là. Et Jamie Ryan, bassiste du groupe Mass Hysteria qui saura aussi nous apporter un regard de musicien. Comment ça va ?
Bah, ça va très bien et très content d'être là, merci
bon,
d'avoir... Bah,
merci à vous d'être là, on va écouter des extraits, bien sûr, on va décortiquer des morceaux, on va parler même de l'impact jusque dans la pop culture de Stranger Things à Lady Gaga, et on va essayer de comprendre comment un album de thrash metal sorti en 86 est devenu un classique universel, je peux le dire ça ?
Oui,
la réponse est clairement oui, très bien. L'émission spéciale Metallica, c'est tout de suite, à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Ça fait un extrait du morceau batterie donc qui est présent sur cet album Master of Puppets. La question elle est première question en tout cas elle est simple mais Olivier, toi ton premier souvenir avec Metallica, c'est quoi ?
C'est justement ce morceau.
Oh alors là je pourrais pas viser plus juste, c'est incroyable.
Qui est le morceau d'ouverture de l'album Master of Puppets.
Ouais.
On est dans la seconde moitié des années 80, je commence à m'aventurer sur le terrain un peu difficile du hard rock, qui à l'époque était vraiment une musique de ghetto, hein, il faut le dire. Hein. C'était, on appelait les fans de hard rock, c'était les hardos, qui étaient très mal vus. Et j'avais commencé à tâter un peu le terrain, mais avec des groupes plutôt gentils, Van Halen par exemple, la CDC. Mais je m'étais dit, déjà là, j'avais l'impression que pour moi c'était l'extrême violence musicale à l'époque, hein, du haut de mes 10-11 ans. Et j'ai un ami qui a décidé de me pervertir et qui ne m'a pas prévenu et qui à la récréation m'a mis un casque de Walkman. Souvenez-vous les Walkman avec les cassettes.
Bien sûr.
Il m'a dit, toi, il faut que tu écoutes ça, gamin. Et tout l'intérêt en plus, non seulement c'est Master Puppets, non seulement c'est le morceau batterie, mais le morceau batterie est assez... C'est un morceau pervers parce que ça commence par de la guitare acoustique. Une guitare acoustique, deux guitares acoustiques, trois guitares acoustiques. On se dit, oh tiens, c'est... Limite c'est gentil, et d'un seul coup, la distorsion arrive et le groupe part à toute vitesse. Je me souviens encore le choc musical, et encore aujourd'hui, 40 ans après, j'ai encore les poils. Ouais.
Et toi Jamie, c'est quoi ton premier souvenir avec ce groupe ?
Je pense que c'est le clip de One, qui est sorti sur l'album d'après, Justice for All, qui est
dont tu portes un t-shirt aujourd'hui, de l'album suivant.
Ça reste mon préféré, mais j'ai quand même une bonne place pour Master of Puppets dans mon cœur, hein, on va pas se le cacher. Le clip de One, qui est c'est le premier clip de Metallica.
C'est le tout premier clip de Metallica.
Et donc, qui est en plus déjà un choix un peu compliqué, parce que c'est pas non plus la chanson la plus dynamique pour un clip, et c'est long. Et la première fois que j'ai vu, je suis ok, d'accord, c'est ça Metallica. Et en fait, on arrive à la fin du morceau, je fais ah, d'accord, c'est ça Metallica. Et c'est resté, hein, on va pas se le cacher. Hein, j'en suis dans ma vie en partie grâce à ce clip. Hein, c'est...
Alors, puisqu'on parle de Metallica, c'est un nom qui est extrêmement identifié, bien sûr, même pour les personnes qui n'écoutent pas de métal. Mais qu'est-ce qui en fait, selon vous, peut-être on peut commencer avec toi, Olivier, un groupe qui aujourd'hui fait figure d'institution. Pourquoi ce groupe, justement, il a dépassé le cadre du métal ? Tu sais, comme souvent dans les genres musicaux, il y a des personnes qui deviennent plus grandes qu'un genre, en fait. Et aujourd'hui, Metallica, c'est justement ça, c'est le cas. Qu'est-ce qui fait que ce groupe-là, il a dépassé ce statut, justement ?
C'est un ensemble. C'est artistique, même s'ils ont eu, on peut dire, là c'est un grand débat, hein, mais on peut dire qu'il y a un passage à vide dans la seconde moitié des années 90, c'est artistique, le groupe a vraiment été là au bon endroit, au bon moment, avec les bons disques. C'est une très bonne gestion professionnelle aussi, c'est un groupe qui a d'abord construit son intégrité, sa carrière, par un côté très underground, c'est-à-dire que pendant longtemps, Metallica a donc le clip que mentionnait Jamie, c'est le premier clip qu'ils ont fait pour le quatrième album, en plus pour un morceau qui est long et qui est assez glauque, enfin c'était pas un choix évident, mais pendant longtemps Metallica a dit, nous on ne joue pas le rôle des médias.
À une époque, comme tu disais en antenne, où justement MTV explose, et donc où la vidéo et les clips prennent une place importante. Donc c'était un vrai choix aussi, justement.
Non seulement ça prend une place très importante, mais en plus, le hard rock, au moment où Metallica commence à monter, le hard rock est dominé par ce qu'on appelait à l'époque le hard FM, mais pas encore le hair metal, c'est-à-dire avec des groupes comme Bon Jovi, Motley Crue, où l'imagerie était ultra importante avec des mecs avec des cheveux pas possibles, laqués, d'un maquillage, et beaucoup d'exubérance. Et Metallica, eux, ils arrivent avec leurs baskets, leur bière à la main, ils disent « Non, nous, on fait jouer pas ce jeu-là. Nous, on est des vrais. » Et ça a beaucoup construit leur... Et c'était un groupe intègre. C'était vu comme un groupe vraiment très solide. Et puis, ils ont eu que des disques. Il n'y a pas eu de mauvais disques de Metallica avant, on va... avant jusqu'à un certain point. Mais c'est un parcours sans faute artistique.
Le début de carrière, en tout cas.
Le début de carrière. Et qui, à chaque fois, en plus, avec... Et puis oui, en plus, ils étaient très bien encadrés. Et puis, avec un manager très, très fort qui a su les placer comme il faut. Et puis, avec une dynamique interne. Dans Metallica, on retrouve un peu la même dynamique qu'on retrouve dans tous les grands groupes de rock, notamment les Beatles et les Rolling Stones. Rolling Stones avec Mick Jagger, Keith Richards. Là, dans Metallica, c'est James Hetfield et Lars Ulrich, guitariste, chanteur et batteur, qui ce sont vraiment eux qui mènent la barque à tous les niveaux. Ce sont eux les décideurs, ce sont eux qui ont la vision du groupe et qui s'y attachent depuis le début. Et puis ils ont travaillé, ils ont énormément travaillé. Metallica a passé toutes les années 80 à tourner. Ils ont, à un moment, ils faisaient jusqu'à 150 concerts par an et ça a fini par payer. Et au moment où ils ont senti qu'ils pouvaient devenir redondants, où à la toute fin des années 80, c'est là où ils ont eu cette idée de génie de changer un peu d'angle de vue et de décider de passer le cap suivant au moment du cinquième album, en faisant le fameux Black Album qui les a fait passer dans une autre dimension, qui pour beaucoup de Hardos, parce qu'on disait à l'époque l'Hardos, et le disque de la traîtrise,
oui.
Mais qui a été un coup très risqué, mais très gagnant. C'est avec ce groupe-là, avec ce disque-là, que Metallica est devenu une force interplanétaire.
C'est devenu un groupe d'arène avec ce disque-là. C'était déjà très gros dans le milieu, mais avec le Black Album, c'est clairement passé dans une autre sphère, vraiment le planétaire, à faire des stades énormes et remplir jusqu'à... 5 fois par semaine le même stade sans problème et tourner pendant 3 ans sans arrêt. Autre chose encore. Quoi.
Et c'était, tu vois, avec le recul, oui, je me souviens, parce que moi je me souviens à l'époque, c'était un grand débat. J'ai fait partie des gens de cette génération qui, je dis ça pour les jeunes qui nous écoutent, qui faisaient la queue le matin des jours de sortie des albums. J'ai fait la queue, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, j'ai fait la queue devant le magasin disque de Tower Records.
Le fameux.
Le fameux, avec l'accent, à Boston, le matin de la sortie de l'album, de Black Album de Metallica. Et je me souviens, une fois revenu en France, les débats avec les quelques fans de hard rock qu'on avait autour de nous, c'est « Mais est-ce que l'album est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Tu préfères la troisième chanson de la face A ou la deuxième chanson du face B ?» Ils ont fait une balade. Est-ce qu'ils avaient le droit? Mais je me souviens, c'est devenu un espèce de... Et pendant des mois, on ne se rend pas compte, l'impact à l'époque d'un disque. Et Metallica, c'est, on peut le dire, ces 5 premiers disques, c'est des disques, c'était l'événement de l'année. Mmh. À chaque fois qu'il y a un album Metallica, entre 1984 et 1991 qui sortait, ça a écrasé tout le reste.
Jamie, après bien sûr on rentre un peu plus précisément dans Master of Puppets qui est l'album qui nous réunit aujourd'hui. Toi qui es musicien, quand tu découvres le groupe, je sais pas si tu l'es déjà, mais peut-être que tu as déjà en tout cas un rapport avec la musique. Qu'est-ce qui frappe quand on est musicien dans le jeu de Metallica? Peut-être même techniquement, qu'est-ce qui fait que c'est aussi impressionnant?
Ils ont une façon d'aborder certains morceaux qui sont pas traditionnels autant d'un côté rock que d'un côté métal que n'importe quel groupe. Ils ont une façon d'arranger les choses qui est très à même à... C'est eux. On comprend. Leur structure est très spéciale et ils ont une façon d'apporter certaines idées ou de riffs qui venaient aussi beaucoup de Cliff Burton, le bassiste jusqu'en 1986, qui lui avait une oreille musicale bien plus développée parce qu'il avait fait du piano, il avait pris des cours, il était très intéressé par le classique, le jazz et plein de choses, et qui leur a aussi apporté une approche à l'harmonie, que l'harmonisation est juste générale d'apporter des idées, de peut-être... à ce moment-là, on le joue normalement, après on met une tierce par-dessus, que beaucoup de groupes ne faisaient pas nécessairement parce qu'ils n'avaient pas ces éléments-là, mais qui sont...
Il avait un bagage technique, peut-être, en tout cas une curiosité qui faisait que ça donnait une autre épaisseur à ces albums.
Mais pas forcément au début. Lars Ulrich, le batteur d'origine danoise, était connu déjà à l'époque et encore aujourd'hui pour être... pas le batteur le plus carré de la Terre, hein, il faut être clair. et avec lui, pour le coup, Lars Ulrich avait très peu de notions de solfège, de tempo. Lui, pas du tout technique, mais par contre, c'est toujours James Hetfield, le chanteur qui amène les riffs. Et en fait, Lars Ulrich, c'est l'architecte. C'est l'arrangeur. Donc Lars Ulrich a toujours dit, moi j'ai construit mes parties de batterie en fonction des riffs proposés par James. Mmh. Et donc il y a une dynamique comme ça, il y a un batteur qui n'est pas très carré, mais où la batterie est là pour soutenir le riff, pour soutenir la chanson, et donc avec entre ces deux personnes qui vont dans la même direction. Et pour moi, ça a été l'une des forces de Metallica, en sachant que James Hetfield, le guitariste rythmique, est réputé pour être l'un des guitaristes rythmiques les plus carrés du monde. C'est-à-dire que tous les gens qui ont bossé avec eux, les ingénieurs du son, les producteurs, ont dit on n'en connaît personne comme ça qui est d'une précision chirurgicale.
Et pour revenir bien sûr sur ce détail que Lars Ulrich, comme quoi il accompagnait vraiment la guitare. Alors, c'est souvent un débat en interne entre les musiciens et les historiens du métal, on va dire, que ce passage, ce fameux passage dans One, où la double pédale suit exactement ce qu'est en train de faire la guitare, c'est la première fois que c'est fait. On n'en est pas sûr, mais en tout cas, c'est la première fois que, on va dire, 90% des gens l'ont entendu, et que c'est devenu plus ou moins, genre, mais le b.a.-ba du métal. C'est vraiment si la grosse caisse et le riff, c'est ensemble. Et c'est plus ou moins venu, enfin, c'est un des grands moments de cette chose.
Je vous propose qu'on écoute un morceau issu de l'album Master of Puppets. Ce morceau, on va en écouter les premières notes. Vous le reconnaissez tout de suite ?
Bah oui,
rien. C'est vrai que j'ai parlé à quelques fans, ils m'ont dit, c'est souvent un des morceaux préférés d'album, j'ai l'impression des fans de
cet album. Incroyable,
bon, on s'écoute. Ça, il s'appelle comment ?
Orion.
Voilà, il s'appelle Orion, Metallica Orion, présent donc sur Master of Puppets, à l'album qui fête ses 40 ans. C'était donc le morceau Orion de Metallica, présent sur l'album Master of Puppets.
France Inter. Mehdi Maizi, à la régulière.
Je suis avec Olivier Badin, donc journaliste, et Jamie Ryan, bassiste du groupe Mass Hysteria. Et on est là pour parler bien sûr de Metallica, mais donc de cet album, Master of Puppets. Et la question, elle est très simple, messieurs. Cet album, il est sorti il y a 40 ans. Mm-hmm. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que cet album, il a autant marqué les esprits? Et qu'est-ce qui fait que c'est un classique, Jamie? Même si j'ai bien compris que c'était pas ton album préféré de Metallica.
On lui pardonne.
Ouais,
j'ai pas dit que c'était le pire non plus.
Ouais. Mais pourquoi,
tu ne peux pas.
pourquoi on est encore là aujourd'hui, 40 ans après, à essayer de raconter ce disque?
Parce que autant dans un contexte musical que l'année de sortie, le moment où il est sorti, le moment dans leur carrière, c'est le moment dans lequel ils sont enfin vraiment confortables tous entre eux. Tout le monde a sa place, tout le monde sait ce qu'il est en train de faire et tout le monde est à 100% sur l'avancée de ce qui va se passer. James et Lars Ulrich savent ce qu'ils font. Ils ont compris qu'ils sont l'identité et aussi la ligne directive de la créativité dans tout ça. Mais ils savent aussi qu'ils peuvent se reposer aussi un peu sur l'approche et les idées de Cliff Burton et de son opinion sur certains passages ou des mélodies ou des harmonisations, encore une fois. Et Kirk Hammett est un peu enfin sorti de l'ombre qu'a laissé Dave Mustaine sur les deux premiers albums, qui avait encore beaucoup de sa patte intégrée aux morceaux, parce que ce sont beaucoup des morceaux sur lesquels il a travaillé et Kirk Hammett était là plus ou moins en interprète de ce qui s'était fait. Donc il peut enfin vraiment s'exprimer en tant que guitariste lead, mais en même temps, tout dans l'urgence, parce qu'il doit tout faire dans les derniers jours avant de rentrer aux États-Unis, vu que l'album a été enregistré à Copenhague, en sachant que, il l'a dit lui-même, le solo de Master of Puppets, il a 45 minutes pour le faire. Ouais. Et je pense que ce sentiment d'urgence de « c'est maintenant ou jamais », l'a lui poussé à faire des choses que peut-être, s'il avait pris trop de temps à penser, peut-être n'aurait pas fait, n'aurait pas osé. Et je pense que 86, dans le métal, c'est une année où beaucoup de gros albums de thrash vont sortir. Parce que bon, on parle de Master of Puppets, mais il y a Raining Blood de Slayer, il y a P-Cells de Megadeth qui arrive pas très longtemps après, et il y a Anthrax qui sort Among the Living. Qui sont, enfin c'est quoi, c'est début 87, enfin c'est pas tout, loin. Mais...
Je suis d'accord avec lui, toutes les planètes s'alignent, et notamment tu parlais, donc Metallica, reconnu, on appelle le trash metal, avec un H s'il vous plaît, oui. Parce que c'est important.
C'est pas les poubelles.
C'est pas les poubelles. Donc le trash metal, le sommet c'est 1986. Parce que là... C'est l'année pivot, l'année où tout...
C'est là où on les appelle les Big Four, les quatre groupes qui ont sorti leurs albums, c'est le Big Four.
On peut le dire, je voulais qu'on en reparle un peu après, mais vous le mentionnez, c'est intéressant, il y a ce fameux Big Four, donc c'est les quatre groupes que tu viens de citer en fait, Jamie, c'est un peu les quatre mastodons du thrash metal.
C'est les quatre mastodons, ils sont copains, ils se connaissent tous, quatre groupes, trois californiens, un new-yorkais, et c'est Master of Puppets, en 12 mois, en l'espace de 12 mois, il y a quatre disques, qui définissent, par quatre groupes différents, qui définissent encore le genre aujourd'hui, 40 ans après. Et c'est Metallica qui ouvre le bal avec Master of Puppets le 3 mars 1986. Ouais. Et ça se termine en mars, le 27 mars 1987, avec l'album d'Anthrax que tu as mentionné. Et ce sont quatre disques qui, à ce moment-là, il y a tout dedans. Parce que musicalement, c'est ultra solide. Dans les trois cas, c'est les troisièmes albums, à part le deuxième Megadeth, mais pour les trois autres groupes, c'est leur troisième album. Les groupes sont à leur sommet créatif et artistique. Et en plus, dans le cas de Metallica, c'est un sommet sur le plan humain aussi. C'est-à-dire que Metallica, ça y est devenu une machine ultra bien huilée. C'est une machine de guerre, il faut le dire. Et en plus, avec cette espèce d'élan. Ils sont encore jeunes, hein. Ils ont 22, 23 ans, c'est rien du tout.
C'est fou.
Ils sont tout jeunes, et donc il y a une espèce de momentum monumental qui les porte, et qui sera, et on l'en a parlé, tu en as parlé en intro, on va sûrement en reparler après, et qui va se solder par, en plus, une tragédie avec la mort accidentelle de Cliff Burton, qui va les casser dans leurs élans, dans leur élan, pas forcément sur le plan artistique, mais sur le plan humain, il y aura une vraie cassure après. Ouais. Mais le Metallica qui enregistre le Master of Puppets à l'automne 1985 à Copenhague, ils sont jeunes, ils ont la patate, ils vivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour Metallica. Les quelques erreurs des deux premiers albums ont été corrigées, ils savent que c'est le disque qui va changer leur destinée et ils font tout pour que ça marche, et ça marche.
On continue de parler de Metallica jusque 23h. We'll be right back.
Ça, c'est le morceau Disposable Heroes, donc présent sur cet album. Il y a quelque chose qu'on a aussi évoqué un petit peu en antenne tout à l'heure, c'est le fait que les morceaux étaient aussi assez hors format. D'ailleurs, on l'a même dit tout à l'heure quand tu disais, Olivier, qu'il y avait une volonté de ne pas faire des choses pour la radio, de ne pas faire de clip. Les morceaux sont longs. C'est-à-dire qu'en fait, l'album dure 8 minutes, il y a 8 morceaux, pardon, mais il est assez long. C'est-à-dire qu'en fait, parce que les morceaux, il y a 3 morceaux de plus de 8 minutes, des morceaux qui durent 6 minutes. Donc il y a vraiment une volonté aussi d'être un peu en opposition avec les formats de l'époque. D'où ça vient, ça ? C'est peut-être cette volonté de ne pas faire de compromis sur cet album très particulier. Parce que c'est intéressant, après, vous disiez qu'après Metallica est peut-être devenu un peu le groupe de la traîtrise avec le Black Album, mais on a l'impression que justement sur celui-ci, c'est tout l'inverse.
Parce que ça, c'est toute la personnalité, une grande partie de la personnalité de Metallica dans les années 80, c'est d'aller à contre-courant. Là, 1985-86, il y a la toute puissance de MTV. Le hard rock qui est très populaire, notamment outre-Atlantique, c'est donc, comme je disais, le hard FM, le air metal, les groupes style Bon Jovi, Warrant, Motley Crue, Rat, très basé sur l'image et sur les singles, avec toujours la balade obligatoire, même les Aerosmith, ces choses comme ça.
Power balade.
Et Metallica s'est toujours mis en opposition, a joué aussi, a construit sa réputation à l'époque en disant « Nous, on est les vrais. Nous, tu vois, ces groupes qui, en plus, étaient... Les fans de hard rock avaient un rapport assez conflictuel avec tous ces groupes parce qu'ils aimaient certaines de ces chansons, mais pas toutes. Et en même temps, avant ça, le milieu du hard rock était quand même un milieu essentiellement masculin. Et mine de rien, c'est tout bête, hein, mais avec des groupes comme Bon Jovi, Motley Crue et tout, ça commençait à diversifier. Les femmes ont commencé à arriver au concert et ça faisait un peu du bien d'avoir plutôt qu'un public plein de testostérone. Mais Metallica, eux, ça a toujours été non, on est un groupe underground, on n'est pas sur l'image, on ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Donc, à ce moment-là, le passage obligatoire, c'était le single, le clip vidéo bien pensé pour MTV. Et ils ont dit, oh, vous savez quoi, nous, on va faire l'inverse. On va faire ça à l'ancienne, comme dans les groupes des années 70, c'est-à-dire, nous, on va sortir des albums qui sont faits pour être appréciés de la première plage à la dernière plage dans leur intégralité. Et nous, on va faire nos preuves sur scène. Donc, on va prendre tous les concerts qui nous tombent sous la main. Faut savoir que juste après la sortie de Master of Puppets, par exemple, ils sont partis, ils ont fait 5 mois de tournée d'affilée avec Ozzy Osbourne, l'ancien chanteur de Black Sabbath aux États-Unis. 5 mois, hein. Ils sortent l'album et pendant 5 mois, il faut se rendre compte ce que c'est que passer 5 mois, t'es mieux placé que moi pour en parler, mais 5 mois aux États-Unis en première partie à jouer pendant 45 minutes, parfois au fin fond du Wisconsin, où à l'époque les gens ne les connaissaient pas du tout.
Ah, oui.
En première partie d'un chanteur qui était très populaire à l'époque.
Bah, Ozzy est un peu la figure du, entre guillemets, on va dire pop metal, parce que c'est le metal populaire plutôt que ce metal underground que représente Metallica. Et Metallica qui, juste l'année ou deux avant, il y a ce fameux live où James Hetfield crie dans le micro « Si t'es venu voir des mecs en spandex, t'es venu au mauvais concert, mec. » Et vraiment, ils se revendiquaient la contre-culture du métal. Ils étaient vraiment l'underground. Et ils étaient, comme on a pu dire, le fer de lance du truc, et ils le revendiquaient très fort.
Et dans cette imagerie, il était très branché skate, par exemple. Imagerie assez, on va dire, assez morbide. Et pendant que tous les groupes de hair metal chantait sur le plaisir de faire la fête, de pouvoir courtiser ses dames, ou juste de s'amuser à descendre Sunset Strip sur des Harley Davidson pour aller dans des street clubs, ce qui sont ce que Motley Crue faisait. Non, mais Taika, ils disent non, nous on va parler notamment sur Master of Puppets, on va parler le morceau titre parle de drogue, d'addiction à la drogue, du point de vue de la drogue qui dit toi, quoi que tu fasses, tu es en mon pouvoir et tu finiras par mourir. Le morceau qu'on entend Disposable Heroes, c'est sur la guerre. Il y a un morceau qui est un peu dédié à Lovecraft, The Things That Should Not Be. Il y en a un autre qui est inspiré par le film avec Jack Nicholson, Le Vol au-dessus d'un nid de coucou, parle du point de vue d'un type qui est dans un asile psychiatrique et qui sait qu'il ne sortira jamais. Enfin, ça rigole pas des masses, en fait, dans Metallica, mais pour eux, c'est une façon de dire nous, on est le reflet de la réalité. Nous, on n'est pas juste là pour dire vous allez vous amuser, c'est génial. Et qui, en plus, une réalité qui résonne bien avec l'actualité de l'époque. 1986, on est pratiquement aussi le pic de la guerre froide.
Ouais.
Il faut se souvenir que 1986 commence par la tragédie de Challenger, qui explose en plein vol devant des millions de téléspectateurs. En avril, on a Tchernobyl. Enfin, il y a la guerre en Afghanistan. C'est pas une année où on se marre vraiment. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. Et Metallica apporte la réponse en disant bah, nous, on vous ment pas. Nous, on vient de la rue. On vous parle de la rue, on vous parle de vos problèmes. Nous, on n'est pas là pour vous amuser. On est là pour vous dire, confrontez-vous. Qui était le principe d'ailleurs du thrash metal, mais qui a été vraiment.
Mais justement, parce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est de metal, de pop metal, quand on parlait d'Ozzy Osbourne. Et thrash metal, pour les personnes non initiées, c'est quoi exactement le thrash metal, justement ?
Alors, le thrash metal, c'est une version, on va dire, en simplifiant les choses, c'est une version accélérée du heavy metal. Ouais. Ça joue plus vite, c'est plus agressif, avec une attitude plus propre au punk.
Exactement.
Et qui, en général, a des, une fibre plutôt sociale, voire politique.
Ouais, c'est beaucoup plus proche de son public. Ils essayent pas de montrer comme quoi c'est eux les plus beaux, les plus riches. Enfin, ils sont pas en train d'étaler une richesse sur scène, quoi que ce soit. Ils sont habillés pareil que leur public. Ils sont en train de boire des bières sur scène, ils sont pas en train de faire des trucs spécifiques à une classe qui ne serait pas leur public. Ils essayent pas de donner une image comme quoi ils sont plus grands, plus gros, meilleurs que qui que ce soit. Non, au contraire, ils sont leur public, ils s'identifient parce qu'ils sont cette même jeunesse qui se sent un peu délaissée par tout ce qui se passe et un peu isolée, qui n'a pas envie de participer à ce qui se passe et qui veut se retrouver.
De toute façon,
pour créer quelque chose d'autre.
C'est... Le trash, c'est l'envers de l'American Dream.
Ah oui, c'est
vraiment. Et c'est une musique de prolétaire, ouais. De punk, où beaucoup de ces groupes ont fait leurs premières armes dans des squats. Ah, ben et ils parlent de l'envers du décor.
Le trash, comme on disait, prend du punk le côté 100% DIY. Le trash a pu évoluer et grandir grâce au fait qu'il y ait tous ces échanges de cassettes à l'époque qui se font avec des gens qui s'envoient des cassettes entre pays. Enfin. Pas de partout, enfin, y a une distribution parallèle au marché de la musique qui se met en place par rapport à tout ça, et ça a grandement profité au trash, parce que c'est ce qui lui a permis de se retrouver en Europe plus rapidement que si ça avait été des labels qui l'avaient fait, et ça joue énormément dans ce truc-là, le fait que les gens regardent Metallica sur scène et se retrouvent en fait dans ces personnes qui sont là en train de jouer.
Et puis ça correspond à l'époque politique aussi. Il faut se souvenir que là, 86-87, c'est le deuxième mandat de Ronald Reagan.
Ouais.
On est dans
libéralisme.
Libéralisme à tout écrin, les années fric, et j'ai envie de dire travailler plus pour gagner plus avant l'heure, mais qui laisse pas mal de gens sur le bas-côté, et le heavy metal à la base est encore plus thrash metal. Va chercher ces gens en disant hey, toi qui es paumé, toi qui te sens déclassé, toi qui te dis que tout, viens m'écouter. Moi, je parle de ce que tu vis, je sais ce que tu vis. Viens voir en concert. Et en plus, quand tu viendras voir en concert, j'aurai à 3 mètres de toi. Et après le concert, tu pourras venir me voir et on pourra boire des bières et papoter ensemble. Je suis comme toi.
Mmh. Je propose qu'on écoute un morceau que tu as mentionné, Jamie. C'est le morceau éponyme Master of Puppets qui dure 8 minutes 35. Ouais. Alors, je m'excuse auprès des auditeurs et des auditrices, on ne va pas l'écouter en entier parce qu'on a encore des choses à aborder. Pourquoi ce morceau, il est aussi exceptionnel d'un point de vue même de musicien?
Parce que là, on est vraiment dans ce qui est l'apogée de la composition et de l'arrangement type Metallica, on va se dire. Il y a cette intro qui est juste un riff chromatique, qui est une descente et qui ensuite se suit dans un autre riff qui a aussi un chromatisme et une rapidité. Savoir qu'il a été enregistré un poil en dessous au niveau tempo et réaccéléré derrière parce que ça donne une impression encore plus tight, encore plus sec et vraiment parfait. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout de la carrière de Metallica dedans, parce qu'il y a ces passages un peu plus clean, un peu plus classique, un peu balade. Il y a un riff qui est un petit clin d'œil à David Bowie dans cette chanson. Il y a tout, vraiment. Ça montre tout. Si c'était un morceau qui devait montrer ce qu'était Metallica...
C'est un morceau synthèse.
C'est leur façade. C'est vraiment genre, ça c'est nous, et voilà ce qu'on te propose.
Bon, on écoute ça alors du coup tout de suite. Master of Puppets, donc morceau issu de l'album du même nom, signé Metallica. We'll be right back. C'est le morceau donc Master of Puppets I, donc de Metallica, sur l'album éponyme, parce qu'on est aujourd'hui ici avec Jamie Ryan et Olivier Gadin pour parler donc des 40 ans de Master of Puppets, et on continue tout de suite.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Olivier Badin, on l'a dit, Cliff Burton, donc on a un petit peu parlé en début d'émission, était un membre évidemment important du groupe, peut-être même l'âme du groupe, qui est décédé un peu après, pendant la tournée. Qu'est-ce que ça change pour Metallica, la disparition de Cliff Burton?
C'est clairement, sans faire la psychologie de comptoir, c'est la fin de l'innocence.
Ok.
Ils ont 23 ans, 22, 23 ans en tout.
Pour rappel, il meurt d'un accident de bus, hein, en Suède.
Un accident de bus, on est en Stockholm après un concert à Stockholm.
Alors, 24 ans.
C'est pas très clair. Ouais. Officiellement, au début, c'est le bus dans la nuit, quand ils allaient au prochain concert au milieu de la Suède, qui aurait glissé sur une plaque de verglas. Après, il y a eu des soupçons comme quoi le chauffeur de bus était bourré ou s'est endormi, on n'a jamais trop su, ça n'a jamais été prouvé. Mais le bus a fait un tonneau et en fait Cliff Burton a été projeté par la fenêtre juste avant que le bus ne s'aplatisse sur lui, en sachant qu'il y avait vraiment deux camps dans Metallica à l'époque. Il y avait James Hetfield, Lars Ulrich, chanteur, batteur, d'un côté, et Kirk Hammett, guitariste soliste, et Cliff Burton de l'autre côté. Le soir, Metallica est un groupe en devenir, mais reste un groupe underground. Ils n'ont pas encore des moyens faramineux. Apparemment, le tourbus était bien, mais pas gigantesque non plus. C'était pas un Boeing 747. Donc, tout le monde n'avait pas forcément des bonnes couchettes. Et là où Cliff Burton s'installait, c'était la meilleure couchette, visiblement. Et juste avant que le groupe parte se coucher, il a joué, je crois, pile ou face au poker avec Kirk Hammett.
Avec Kirk Hammett, ouais.
Avec Kirk Hammett, il a joué pour savoir lequel des deux allait avoir la bonne couchette. C'est Cliff qui a gagné. Et c'est Cliff qui meurt. Kirk Hammett a toujours dit, entre guillemets, je l'ai tué. Est-ce que ça aurait dû être moi qui aurait dû mourir? C'est quelque chose qui les marque beaucoup. Et ensuite, Metallica, Cliff Burton meurt fin septembre. Metallica met un certain temps à assembler ses esprits, on va dire. Ils engagent finalement Jason Newsted, qui passera 14 ans avec eux quand même, dans le moment où vraiment le groupe explose.
Qui est bassiste donc. Hein,
qui est le bassiste, qui prendra la place de Cliff Burton. Et le remplaçant Cliff Burton passera, on l'a plus ou moins compris après coup, passera 14 ans à être le souffre-douleur du groupe, qui aura toujours dit, qui aura avoué des années après, en fait, on n'arrivait pas à faire le deuil de la mort de Cliff, donc on lui a fait payer, par exemple, l'album dont Jamie est si fan, Injustice for All, est mondialement connu pour être un album où on n'entend pas la basse. Mmh. Parce qu'il enregistre tout l'album, avec des parties assez compliquées, et c'est le batteur, Lars Ulrich, qui, une fois qu'il était parti dans son dos, a dit au producteur, baisse-moi la basse. Baisse-moi la basse. Mmh. Contre l'avis du producteur à l'époque. Hein.
Et Jason, qui reste humble et gentil, qui dit, non, mais c'est parce que les parties basses sont trop proches de la guitare, donc je me perds dans le mix à cause de ça.
Qui a resté diplomate, très gentleman jusqu'au bout.
Qui a, je pense, a dû passer certaines soirées bien, bien longues, bien seul dans son coin à vivre ça, mais qui au final a quand même offert à Metallica beaucoup de choses parce qu'il faisait les chœurs, il a rajouté beaucoup, il jouait très bien, il a rapporté, à mon avis, ce qui est un des meilleurs riffs du groupe, qui est le riff de Black End. Il a souffert, mais c'est vrai que remplacer une personne comme Cliff Burton dans un moment si important dans la carrière d'un groupe, et si jeune aussi, se retrouver confronté à la mort de façon très très très
brutale.
Se réveiller d'un accident et voir ton pote dans cet état-là, je ne sais pas ce que ça fait et je ne veux jamais le savoir, mais ça doit être horrible. Et enfin, James Hetfield est cité direct après en disant, mais de quel groupe vous parlez? La Metallica, il n'y a plus Metallica, il y a trois gars.
C'est traumatique pour lui. Ça a été révélé après qu'une fois dans le bus, lui était en chaussette et que James tournait autour en disant, mais il est où Cliff? Et pour lui, Metallica a toujours été un peu une famille de remplacement pour James Hetfield, qui est un enfant qui vient d'un milieu de parents divorcés, avec un père qui était chauffeur routier, qui a quitté la maison familiale. James Hetfield a dû partir, aller vivre avec son grand frère, parce que sa mère était témoin de Jéhovah, et tombée malade, a refusé de se faire soigner en disant « c'est Dieu, va venir à mon secours ». Dieu n'est pas venu à son secours, elle est morte, donc il perd sa mère alors qu'il a 12 ans, 13 ans je crois, ouais. Donc il y a un déchirement pour lui, il y a un père qui n'est jamais là, sa deuxième famille, ça devient Metallica, et là aussi le schéma se répète, et en plus avec Cliff Burton qui était dans cet axe, tous les groupes, et Jamie est bien placé pour le savoir, dans tous les groupes il y a des axes de pouvoir, c'est important, c'est une légende, c'est un mythe urbain dans des groupes, tout le monde est au même niveau, c'est faux,
il faut avoir des
leaders,
ça
n'existe pas, ou alors le groupe ne va nulle part, il faut des leaders, il faut des suiveurs, ou en tout cas, des... ça fait partie, depuis la préhistoire, j'ai envie de dire, dans le cas de Metallica, c'est vraiment Lars Ulrich et James Hetfield, mais Cliff Burton, autant que Kirk Hammett, a toujours accepté, quitte à en souffrir un peu aussi, le rôle de, bon ben je suis là, Cliff Burton, il y avait une forme de respect. Cliff, comme l'a dit Jamie, c'était le plus musical, c'était avec son look de hippie, c'était le plus ouvert musicalement. Beaucoup de gens se sont toujours demandé si Cliff était resté en vie, où est-ce que Metallica serait allé musicalement après. On ne le saura jamais, bien sûr, mais une forme de respect, et la mort de Cliff Burton, ça casse vraiment sur le plan humain, sur le plan musical, ça casse quelque chose dans Metallica dont, pour certains, ils ne se sont jamais vraiment remis, en fait.
On est avec Olivier Badin et Jamie Ryan pour parler de Metallica jusqu'à 23h. Alors, on a mentionné quelque chose qui me semble aussi important, en tout cas qui est assez excitant pour un néophyte comme moi, c'est le fameux Big Four.
Ouais.
Donc, c'est Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax. Est-ce que Metallica est le plus accessible des quatre? Est-ce que c'est justement le groupe qui a réussi à le plus fédérer ou à le plus attirer de personnes parmi ces quatre mastodontes, comme on le disait tout à l'heure avec Olivier?
Oui.
Ouais.
Oui, je pense juste de par sa popularité et sa place au sein de tout ça, Slayer étant le plus dur à intégrer, je pense, parce que c'est quand même le plus énervé, le plus sombre dans l'histoire. Anthrax, ça peut être, si on vient du punk, je peux comprendre qu'on puisse arriver par Anthrax, parce que c'est quand même le côté un peu plus festif, fun sur
certains détails.
Ils
sont new-yorkais, là on parle. Ouais, Anthrax, c'était les seuls new-yorkais, il y avait une mentalité plus new-yorkaise, avec un côté un peu déconne, un peu cartoon par moment, que n'avaient pas les autres, puis avec un chanteur typiquement heavy metal. Pour moi, oui, c'est clairement Metallica, parce qu'il y a un niveau, en termes de composition, en termes d'arrangement, il y a un niveau au-dessus, et il y avait derrière une volonté. Je pense que les autres se sont plus ou moins essayés à des niveaux divers, surtout Megadeth, d'essayer de tenter ce petit pas de côté pour toucher le grand public. Ça n'a pas vraiment marché. Et d'ailleurs, dans les trois autres cas, ils ont essayé à un moment d'ouvrir un peu leur chakra. La sauce n'a pas pris et ils sont revenus vers quelque chose de plus conservateur, entre guillemets, parce qu'ils savaient que c'était leur cœur. Leur cœur de cible, c'était on voulait avoir ce son traditionnel. Metallica, c'est le seul groupe qui a réussi à franchir le gap qui pendant très longtemps séparait le métal, qui dans les années 80 était vraiment un ghetto musical, du grand public, et qui a réussi à la fois toucher un grand public, on se retrouve avec des t-shirts Metallica vendus chez H&M quand même,
absolument,
et en même temps en réussissant à garder, pas tous, mais quand même une grande partie de son public d'origine. Et ça, ce sont les seuls qui ont réussi à faire ça.
Alors, c'est aussi un groupe qui est présent aujourd'hui dans la pop culture. Évidemment, il y a des morceaux qui lui rendent hommage et aussi des séries qui lui rendent hommage. Parce que je suis obligé de parler, on l'a mentionné un petit peu en introduction, de la série Stranger Things qui est un carton qui s'est clôturé fin d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, en décembre, avec notamment une scène mémorable qui fait évidemment référence à Metallica. C'est pas évidemment la seule référence. On a vu aussi pas mal de pop stars actuelles qui ont collaboré avec Metallica lors de cérémonies, lors de moments importants. Je pense par exemple à Lady Gaga qui a performé avec eux. Miley Cyrus également avec Metallica, toujours. Et puis on n'est pas dans une collaboration directe, mais le premier album Justice quand même fait ouvertement référence à l'iconographie de Master of Puppets. Et il y a même des morceaux qui se rapprochent comme une esthétique métal, vous me direz si vous êtes d'accord, notamment un morceau comme ça, comme Waters of Nazareth. Ça montre à quel point justement Metallica est devenu un groupe intergénérationnel. Oui. Qui continue d'être cité aujourd'hui. Tu parlais des t-shirts vendus chez H&M. Effectivement, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ont des t-shirts Metallica, qui n'ont peut-être jamais écouté une note de Metallica, mais ça fait partie. C'est pareil avec Tupac, avec Elvis, enfin avec Mike. Voilà, c'est le jeu. Mais ça montre quand même quelque chose sur le fait que l'esthétique, elle soit presque aussi importante aujourd'hui que la musique chez Metallica.
Oui, oui, bah on le voit dans certaines créateurs de mode qui utilisent tout ce qui est l'imagerie du métal pour développer des collections. Bon, à n'en déplaise ou plaise à certains, mais c'est vrai que leur imagerie...
T'en penses quoi, toi? Tu t'en moques?
Enfin, toi, payer 1500 balles pour un t-shirt avec écrit un truc qui ressemble à un logo d'un groupe, je trouve ça un peu bête, mais c'est moi. On le voit aussi dans la revente de t-shirts de vintage de métal. Il y a des t-shirts qui partent pour 500€ maintenant, juste parce qu'ils sont vieux et ils sont recherchés. Et tout ça, en grande partie, grâce à cette ouverture que Metallica a fait quand ils ont explosé ce plafond de tout. Il n'y avait pas que du verre, il y avait tout et n'importe quoi qui les arrêtait. Et ils ont réussi à s'installer comme vraiment une référence, la référence. On ne veut pas se le cacher, c'est le nom du style est dans le nom du groupe. pour beaucoup de gens, ils sont peut-être même la seule chose qu'ils connaissent du métal. Et c'est pas rien d'être quand même la seule référence que quelqu'un qui n'écoute pas connaît. Et c'est être connu de gens qui ne t'écoutent pas, c'est déjà incroyable.
Et puis je pense qu'il y a tout dans cette success story. Il y a un groupe qui s'est fait tout seul, un groupe qui s'est fait une forme de nostalgie pour les années 80, surtout pour les jeunes publics qu'il n'a pas connus.
Bien sûr.
Un groupe qui a traversé des tragédies personnelles, un groupe qui, pendant longtemps, n'a pas voulu jouer le jeu de music business, et au final, le music business a mis un genou à terre et s'est accordé avec eux, et qui représente aujourd'hui un côté transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est un autre sujet, mais c'est la problématique du métal, qui est qu'aujourd'hui, on arrive en 2026, les grands groupes de heavy metal, Iron Maiden est encore en course, mais il n'y en a plus pour longtemps. Black Sabbath, c'est terminé. Judas Priest, moyenne d'âge, 70 ans. Mm-hmm. Metallica, 62 ans. Ce sont des groupes, ils sont qu'une poignée de groupes à avoir traversé comme ça 3, 4, 5 décennies. Et avoir survécu, voire avoir est devenu plus gros. Metallica n'a jamais été aussi gros qu'il a été. Et donc il y a une espèce de fascination dans cette époque du sweeping, cette époque du streaming, cette époque où une info chasse l'autre et où un carrière de groupe, ça dure 5 ans aujourd'hui, d'avoir des groupes qui étaient là il y a 50 ans déjà, 40 ans, et qui remplissent toujours des stades aujourd'hui, il y a une forme de fascination, parce que, soyons clairs, c'est les derniers reliquats d'une époque qui n'existe plus, qui révolue. Il n'y aura plus, aujourd'hui, un groupe de métal qui démarre en juin 2026, ne jouera plus en 2076, ou alors il faut vraiment s'inquiéter.
Ne soyons pas si pessimistes.
et ce qui joue énormément, c'est le fait qu'ils aient commencé de ce côté underground, et très intègre à développer leur public réellement, et d'être avec leur public, avant de passer à ce côté mainstream. En fait, ils ont créé une base tellement solide que, ok, il y en a certains qui les ont peut-être lâchés en cours de route, mais la grande majorité
elle est
suivie.
Elle a compris.
Et s'ils sont encore là aujourd'hui, ils iront voir Metallica s'ils en sont capables.
C'est un sort de passage obligatoire. Même si aujourd'hui t'as lâché le groupe, t'y vas. Ouais. Tu vas forcément. Si t'es fan de métal, t'as forcément eu ta phase Metallica.
Ouais.
C'est obligatoire.
Bien sûr.
Je vous propose qu'on écoute un morceau. Alors, un morceau qui n'est pas présent sur Master of Puppets, mais qui s'appelle Nothing Else Matters. On est obligé de le jouer quand on parle de Metallica?
C'est
30 secondes, dis-moi Olivier.
Débat.
C'est encore un sujet.
Cours de lycée, Salon de Provence. Est-ce qu'il y a septembre 91? Mais ils avaient le droit de faire ça? Non, mais vraiment. Ouais, mais ma copine, finalement, grâce à ce morceau, elle aime bien Metallica maintenant. Okay.
C'est un fer chaud, faut décider de le toucher ou pas.
Voilà. 35 ans après, je suis toujours pas décidé de me dire que c'était une bonne idée ou pas.
Bon, en tout cas, aujourd'hui on le joue. J'espère que c'est une bonne idée. Metallica, Nothing Else Matters. This way. C'est donc ce fameux morceau qui a divisé tant de fans de Metallica à l'époque, s'appelle Nothing Else Matters.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Je voulais juste mettre un peu de rap, j'étais obligé.
Je sais.
Ce morceau d'Esdem donc s'appelle Metallica et qui illustre un peu ce qu'on disait auparavant sur le côté le fait que Metallica soit partout maintenant, même dans des couplets de rappeurs, parce que là il parlait de être guitarisé comme Metallica, même s'il parlait pas forcément d'une guitare. Voilà, ça veut dire plein de choses, la guitare. Dans les morceaux de rap, il y a quelque chose concernant Master of Puppets dont on n'a pas parlé, c'est la présence de Flemming Rasmussen. Finalement, était enregistré à Copenhague. Est-ce qu'on peut en parler peut-être juste de qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec lui sur ce disque-là?
À l'origine, c'était pas supposé être lui. Le premier choix qu'ils avaient, c'était Geddy Lee, qui est le bassiste de Rush, qui apparemment, au final, l'emploi du temps ne tombait pas bien. Après, ils avaient aussi l'idée de l'enregistrer aux États-Unis, mais le studio auquel ils ont été envoyés, ils ont fait « ouais, on n'aime pas les acoustiques et les trucs comme ça ». En fait, ils sont revenus, se sont dit « on va retourner à Copenhague, on va retourner voir Flemming Rasmussen et on va le faire avec lui ». Et ils ont passé presque 4 mois, on va dire, à Copenhague, et ils ont commencé tout en enregistrant 2 covers pour que les sons soient prêts, pour qu'au moment où, dès qu'ils ont envie d'enregistrer, les sons étaient déjà ce qu'ils étaient, ce qu'ils voulaient entendre. Et ils ont développé plusieurs techniques qui sont encore utilisées aujourd'hui. Et ça s'entend dans la qualité, parce qu'en 86, cet album sort. Je pense qu'aucun album de métal a sonné aussi bien quand il est sorti, parce qu'il y a, y a beaucoup de temps qui est passé dessus. Autant composition, arrangement, juste travail de production, d'idées, de quel ampli, quel micro, toutes ces choses-là. Ils ont pris un vrai temps que ces groupes-là n'avaient pas. Les moyens de faire à l'époque, parce que dans les années 80, les enregistrements, c'est long, c'est très cher.
Exactement.
C'est excessivement cher.
Il n'y a pas de home studio encore.
sauf si on s'appelle Van Halen ou un truc comme ça, on a l'argent pour se le payer. Mais, ils ont pris ce temps, enfin, pour pouvoir développer vraiment jusqu'au bout ce qu'ils voulaient. Et ce qui en est sorti, c'est pas moins d'incroyable. Et surtout à l'époque, j'imagine, la première fois en 86, quand quelqu'un a mis sur sa platine Master of Puppets et a entendu ce qui en sortait, il s'est dit, mais
qu'est-ce qui se passe?
Mais il y a quand même, il faut le bémol à apporter à ça. Flemming Rasmussen, ils avaient travaillé avec lui sur l'album précédent. Ouais. Il est danois comme Lars Ulrich. Ouais. Il a quelques années de plus seulement. Visiblement, son surnom, dans Metallica, c'était Papa, parce qu'il y avait une confiance. Moi, je l'ai rencontré une fois. Il travaillait vraiment à l'ancienne. Il se posait en salle de répète avec le groupe. Il prenait des notes en disant, OK, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça, il faut peut-être couper, un vrai travail de producteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du temps effectivement anormalement long pour l'époque, 3 mois, c'est très très long, il y avait déjà une volonté de la part de Metallica de se dire penser le coup d'après et toucher un autre public, parce que l'album a été fait à Copenhague, l'album a été coproduit par Metallica, mais l'album a été mixé aux États-Unis par Michael Wagner, qui est un producteur américain qui, jusqu'à maintenant, bossait beaucoup avec des groupes de hair metal, justement, de beaucoup plus carénés pour les radios américaines. Et il a réussi à la fois conserver le son de Metallica, un son très dur. Autant l'album précédent était très marqué par beaucoup de réverb, là, c'est beaucoup plus sec, c'est beaucoup plus puissant, mais la voix est plus mise en avant, il y a plus d'accroche. Et il y a vraiment, on a un disque qui sonne comme un blockbuster hollywoodien, en fait, qui est taillé sur mesure pour avoir du succès. Et on sent que là, chaque détail, chaque chose a été pesée et sous-pesée. Et ça sentait, c'est pour dire à quel point le groupe était déjà prêt, taillé pour le succès.
Messieurs, on a peu de temps, mais c'est l'heure de la question qui tue. Et je vous le dis, on a vraiment très peu de temps, on a 30 secondes.
Ok.
Pour vous, il me faut une réponse rapide, vous n'avez même pas le temps d'expliquer pourquoi. Quel est pour vous le plus grand album de métal de tous les temps? Voilà.
Ouf.
Il faut y aller. Et toujours confondu, trash metal, on n'a pas le temps là, c'est pour les gens qui connaissent rien.
Alors pour moi personnellement, c'est Converge You Fail Me, c'est mon album préféré. De Converge.
Ok, et très bien.
Master of Puppets. Okay. Désolé, non, je ne dis pas ça parce que je suis là, je le pense sincèrement.
Tu le penses sincèrement. C'est une réponse qui me semble pas complètement déconnante non plus. Elle est même peut-être un peu plus fréquente que la tienne ? Est-ce que Converge, c'est une hot tech ou...
Ah, c'est très 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 petit comparé à Metallica.
Ça, c'est pas tout à fait la même scène, non.
Bon, très bien. Messieurs, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Olivier Banin d'avoir été là, vraiment, de nous avoir éclairé de tes lumières sur ce genre et sur ce groupe. Et merci beaucoup à Jamie Ryan, non, qui est musicien au sein de Massive Serial, qui sera en tournée en novembre,
oui,
par ailleurs.
Tout à
voilà,
fait.
Donc n'hésitez pas, je pense que les infos sont disponibles sur vos réseaux sociaux.
Exactement.
Bon, allez chercher ça. Et puis écoutez Master Phobos de Metallica qui fête ses 40 ans cette semaine.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire à cet album. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Gaëtan Alexia Lacour et Don Tella, réalisée par Gaëtan Colli, pardon. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Jérôme Ragano et Loïs Moreau. Merci aux équipes web et vidéo. Lundi, nous serons en direct, on va changer d'ambiance, avec Franck Lich. J'adore cette émission. À lundi.